Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Najib Mikati, désigné pour former un nouveau gouvernement au Liban à l'issue des consultations parlementaires contraignantes, le Premier ministre sortant a obtenu 54 voix. Le Fonds monétaire international se dit prêt à entamer des négociations avec la Tunisie au cours des prochaines semaines. Objectif, trouver un accord autour d'un plan d'aide de près de 4 milliards de dollars. Les sauveteurs tentent de venir en aide aux victimes du séisme qui a fait au moins un millier de morts et 1500 blessés dans le sud-est de l'Afghanistan. Un drame qui remet en lumière la difficulté d'organiser l'aide humanitaire dans ce pays dirigé par les talibans. Notre invité sera Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ex-conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. De nouvelles attaques meurtrières au Darfour. Les victimes sont des civils qui résidaient dans des villes situées dans la partie occidentale de cette région du Soudan. Le rebond des contaminations au Covid-19, en cause la contagiosité des derniers sous-variants d'Omicron et le relâchement des gestes barrières, comme le port du masque. Nous écouterons le docteur Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF. Emmanuel Macron a réagi depuis le résultat des élections législatives. Le chef de l'État appelle à bâtir des compromis avec les oppositions. La fin des consultations parlementaires contraignantes au Liban. Najib Mikati a été chargé de former un gouvernement. Le chef du gouvernement sortant a obtenu 54 voix en sa faveur contre 24 pour Nawaf Salam et 47 votes blancs. Le Premier ministre désigné qui s'est rendu au palais présidentiel de Babda pour un entretien avec le chef de l'État Michel Aoun et le président du Parlement Nabi Berri. Les sauveteurs tentent de venir en aide aux victimes du séisme qui a fait au moins un millier de morts et 1500 blessés dans le sud-est de l'Afghanistan. Des efforts entravés par le manque de moyens, le terrain montagneux et les pluies abondantes. Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 est survenu dans une région rurale et difficile d'accès, frontalière du Pakistan. Il s'agit du séisme le plus meurtrier en Afghanistan depuis plus de 2 décennies. Ce drame remet en lumière la difficulté d'organiser l'aide humanitaire dans ce pays dirigé par les talibans. Entretien avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Il faut avoir à l'esprit que les tremblements de terre sont hélas réguliers dans cette partie du monde, hein, donc dans la chaîne de montagnes de l'île de Kouch, avec des bilans particulièrement terribles. C'est effectivement le séisme le plus violent depuis une vingtaine d'années, mais ne pas oublier qu'en 1998, il y a eu beaucoup plus de morts, puisqu'on a été plutôt sur les 4200, 4500 morts. Donc évidemment, c'est hélas une triste fatalité qui s'abat de nouveau sur l'Afghanistan, qui n'avait pas besoin de ça. Vous avez mentionné le fait que l'aide humanitaire est plus complexe depuis la prise de pouvoir des talibans. Les talibans ont néanmoins évoqué le fait qu'ils s'attendaient à une aide internationale, d'autant plus que l'épicentre de ce séisme s'est déroulé donc dans la province de Khost, frontalière avec le Pakistan, et donc du coup il y a aussi un impact sur les zones tribales pakistanaises, de facto obligeant d'une certaine façon ou permettant à ce qu'il y ait une coopération bilatérale pour effectivement faire face aux nombreux morts et aux victimes, dont évidemment beaucoup de morts, mais surtout également beaucoup de blessés. Néanmoins, hormis la mobilisation ad minima, dont par rapport aux moyens modestes dont disposent les talibans, le Croissant Rouge afghan évidemment est sur place, l'OMS a dégagé a mis en place également des missions, ainsi que l'Office des Nations Unies, donc l'UNOCHA, tenant compte évidemment du fait qu'il y a d'autres ONG présentes en Afghanistan qui sont déjà mobilisées. Je pense notamment à l'ONG ATED, l'ONG française ATED, qui est présente. Mais vous avez raison, les talibans vont sans doute utiliser l'argument selon lequel les tensions à leur égard, les sanctions, l'aide internationale qui a été coupée depuis leur prise de pouvoir le 15 août dernier, est un facteur d'aggravation de la situation. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à le dire en disant que la communauté internationale devait donner de l'argent dont ils ne disposent plus dans une situation économique absolument dramatique. Baisse des salaires, augmentation du prix, du coût de la vie. avec désormais, et c'est un rapport de l'ONU qui le précise le mois dernier, près de la moitié de la population afghane qui est en situation de famine, donc quasiment 24 millions parmi les 39 millions d'Afghans. Donc une situation qui vient évidemment perturber ou aggraver une situation économique, une situation, une tension sociale, avec, ne pas l'oublier également, des attentats qui continuent, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, contre un temple sikh à Kaboul.
Justement, sur la situation économique en Afghanistan, quel est l'impact des sanctions vis-à-vis du régime dirigé aujourd'hui par ces fondamentalistes?
97% de la population vit désormais en dessous du seuil de pauvreté, avec les talibans, le régime en place à Kaboul depuis le 15 août dernier, donc les talibans qui ne cessent de mettre cela sur la faute de la communauté internationale, notamment les Américains qui n'ont toujours pas, et n'ont aucune envie de le faire, je crois, débloqué les 10 milliards d'euros que les autorités américaines ont mis à l'abri quand le gouvernement de Achraf Ghani est tombé le 15 août dernier. Donc la situation est absolument dramatique, l'augmentation du prix donc des biens de première nécessité, l'augmentation du prix du coût de la vie en général, et bien évidemment un impact particulier, c'est-à-dire sur les populations les plus fragiles. J'ai évoqué les 24 millions d'Afghans donc en urgence alimentaire aiguë, 9 millions sont dans une situation de famine aiguë, dont 1 million d'enfants, et bien évidemment cela met une pression encore plus forte sur la solidarité internationale, qui évidemment ne peut pas rester inaudible ou inattentive à cette situation, mais en même temps avec la certitude, et d'ailleurs l'ONU l'a précisé dans les heures qui ont suivi le séisme, notamment par le biais de l'OMS, que toute l'aide que les organisations internationales vont déployer sur le pays n'ira pas forcément en priorité dans les zones les plus touchées. Ce sont des zones montagneuses, ce sont des zones un peu reculées, d'autant plus que les zones où ce séisme se sont déroulées sont des zones dans lesquelles les talibans ne sont pas forcément les seuls acteurs, ou en tout cas dans lesquelles leurs opposants, donc l'État islamique dans la province de Khorasan, donc Daesh en Afghanistan, est très présente. C'est bien Arost qui était un des bastions de l'État islamique, ce qui rend encore plus compliqué la capacité des talibans à venir en aide aux populations sinistrées.
Aujourd'hui, les talibans continuent à refuser les mesures que demande la communauté internationale, notamment concernant les droits humains, et cela a un impact particulièrement important.
Oui, les talibans ont pris d'une certaine façon à témoin la communauté internationale de leur mauvaise volonté manifeste en ce qui concerne l'inclusivité du gouvernement qu'ils avaient pourtant promis depuis maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire depuis un an qu'ils ont pris le pouvoir. On n'en a absolument pas vu le commencement. Deuxièmement, les talibans sont revenus en arrière sur un certain nombre de promesses qu'ils avaient faites, notamment sur l'éducation des jeunes filles, avec l'ouverture puis la fermeture le jour même, la matinée même, des principales écoles désormais interdites aux jeunes filles, et puis bien évidemment l'obligation désormais de porter donc le voile intégral pour toute activité sociale et sociétale pour les femmes, et notamment au sein de l'université.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ex-conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Le Fonds monétaire international se dit prêt à entamer des négociations avec la Tunisie au cours des prochaines semaines. L'institution évoque une décision prise au terme de discussions techniques de plusieurs mois avec les autorités tunisiennes. Objectif, trouver un accord autour d'un quatrième plan d'aide de près de 4 milliards de dollars. La gravité du contre-coup de la guerre en Ukraine accroît la nécessité de mettre en œuvre sans délai des réformes ambitieuses, et c'est ce que souligne Jihad Azour, administrateur du FMI. C'était à l'issue d'une visite en Tunisie. L'ONU annonce la tenue la semaine prochaine à Genève d'une rencontre entre les présidents des deux chambres libyennes rivales. Objectif, tenter de trouver un accord sur un cadre constitutionnel permettant la tenue d'élections. De nouvelles attaques meurtrières au Darfour. Les victimes sont des civils qui résidaient dans des villes situées dans la partie occidentale de cette région du Soudan. L'organisation non gouvernementale de défense des droits humains, Human Rights Watch, indique que des assaillants armés ont tué des centaines de personnes et causé le déplacement de milliers d'autres. Ils ont ont aussi incendié plusieurs concessions. Les dirigeants européens se réunissent jusqu'à ce vendredi en sommet à Bruxelles, un sommet pour accorder ou non le statut de pays candidat à une adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine. Kiev demande ce statut depuis le début du conflit avec la Russie sur son territoire. L'unanimité sera requise entre les 27. Un long processus de réforme pour l'Ukraine devra ensuite s'ouvrir. L'Ukraine, dont l'entrée effective dans l'Union européenne pourrait prendre des décennies. Le rebond des contaminations au Covid-19 en Europe, en cause la contagiosité des derniers sous-variants d'Omicron et le relâchement des gestes barrières comme le port du masque. Les personnes âgées de 60 ans et plus sont éligibles à la 4e dose si elles ont bénéficié d'un premier appel il y a plus de 6 mois. Un rappel qu'il convient de faire, nous dit le docteur Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF. Il rappelle que le Covid est loin d'être une maladie bénigne.
Il y a au moins deux types de conseils à donner. C'est premièrement que toutes les personnes fragiles, les personnes âgées qui ont fait un rappel, c'est-à-dire c'était la troisième injection, mais qui était un rappel, parfois il a été fait d'ailleurs au mois de septembre l'an dernier, hein. C'est leur dire de faire le deuxième rappel de façon à éviter de faire une forme grave. On sait que la vaccination n'empêche pas forcément d'être contaminé par le Covid, mais empêche de faire des formes graves. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est non seulement en effet un nombre de personnes contaminées de plus en plus important tous les jours, mais on voit aussi des formes graves chez des personnes âgées. D'ailleurs, le nombre d'hospitalisations liées au Covid réaugmente à nouveau depuis une vingtaine de jours. Donc voilà, avec des situations de détresse respiratoire et puis avec à nouveau des décès chez des personnes âgées. Ça, c'est la première chose. Donc se vacciner quand on est à risque, quand on a une pathologie chronique et ou quand on est âgé. Deuxième chose, c'est reprendre les mesures barrières qu'on avait tous oubliées après les vacances de février, en pensant que le Covid c'était fini, que le Covid était derrière nous. Eh bien non. Et c'est vrai que finalement on a abandonné ces mesures barrières. Moi ce matin je prenais le TGV alors que, comme vous l'avez dit, la circulation du virus est à nouveau très importante. Je dirais plus personne ne porte de masque. Donc c'est-à-dire que on pense qu'on est à l'abri. Et donc aujourd'hui dans nos cabinets médicaux, on voit de plus en plus de gens qui présentent les symptômes du Covid. Quand on dit aux patients qu'éventuellement c'est probablement le Covid, ils nous regardent avec des yeux écarquillés parce qu'ils pensent pas qu'aujourd'hui le virus circule autant. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont symptomatiques mais sans faire des formes graves, qui ont des signes digestifs, des nausées, un peu de diarrhée, mal au ventre, de la fièvre, des courbatures, enrhumées et tous, et qui, parce qu'ils ont ce qu'il faut dans leur pharmacie familiale, ou finalement ça ne les oblige pas à s'arrêter, et qui finalement, ne pensant pas au fait que ça puisse être le Covid, eh bien contaminent la famille. Et maintenant, quand on a une personne dans une famille de contaminés, il n'est pas rare que tout le monde y passe à la maison, mais aussi contaminent leurs collègues de travail, puisqu'ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient avoir le Covid, et ce qui explique cette circulation. Donc, des gens contaminés qui ne se testent pas, et l'absence de mesures barrières font que la courbe des contaminations aujourd'hui, on se retrouve, le risque, c'est de se retrouver dans la situation du Portugal ces dernières semaines avec une très grosse 7e vague.
Et vous conseillez à l'ensemble de la population aujourd'hui de porter le masque, par exemple, dans les endroits clos et fréquentés comme les transports en commun ?
Très clairement, à partir du moment où on a une telle circulation du virus, qu'on est dans des endroits clos, TGV, bus, ou dans des salles fermées, avec des gens, on sait que très clairement, moi le TGV où j'étais ce matin, il y avait sûrement des gens qui étaient porteurs du virus, alors vous dire s'ils étaient à l'avant du wagon ou s'ils étaient à côté de moi, j'en sais rien. En tout cas, en théorie, pour se protéger, il faut appliquer à nouveau les mesures barrières et reprendre le masque. De la même façon que moi, dans mon cabinet médical, tous les jours, je consulte avec un masque et toutes les personnes qui viennent dans notre maison de santé pluridisciplinaire, on leur demande de porter un masque.
Vous parliez des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées ne se considèrent pas comme telles. À partir de quel âge est-on une personne dite âgée ?
Les personnes âgées, c'est plus de 70 ou 80 ans. On dit même parfois plus de 65 ans. Si on prend par exemple la vaccination contre la grippe, qui est une référence, on dit à partir d'un certain âge, alors c'est vrai, à 65 ans, on n'est pas âgé. Pour autant, c'est les personnes, faut bien déterminer une limite d'âge, et la vaccination pour la grippe, c'est chez tous les plus de 65 ans. Après, que quelqu'un qui a 65 ans, qui est en pleine forme, qui fait des marathons, aura moins de risques que quelqu'un qui a 60 ans, qui est diabétique et insuffisant cardiaque. Donc voilà, c'est mesurer le risque en tout cas. Et plus on est éloigné, ce qu'on sait, c'est que plus on est éloigné de la vaccination, et donc je l'ai dit, on a des personnes ont eu leur rappel, les premiers qu'on avait vaccinés début 2021 ont eu leur rappel en septembre 2021, eh bien ces personnes-là, si elles sont âgées, eh bien l'immunité elle dure quelques mois, mais en tout cas elle dure pas 8 mois. Aujourd'hui, ces personnes-là sont à 10 mois de leur deuxième rappel. Il est indispensable qu'ils fassent un deuxième rappel.
Une personne qui a été infectée par le Covid l'hiver dernier, elle doit attendre 6 mois pour faire le deuxième rappel.
Oui. Tout à fait, puisque l'infection par le Covid vaut vaccination. Donc finalement, c'est l'équivalent lors de cette infection, c'est comme si elle avait eu un rappel.
Avec la fin des centres de vaccination, des vaccinodromes, où peut-on se faire vacciner? Essentiellement en pharmacie, chez son médecin traitant? Alors, également
pharmacie, médecin traitant, les infirmiers aussi, les infirmières. Hein. Globalement, ce sont les professionnels. Et quand, si vous en avez, votre médecin ne vaccine pas, ben, il va vous adresser au pharmacien ou à l'infirmière qui vaccine et vice-versa. Bon, voilà, il n'y a pas de problème aujourd'hui pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner en France.
Le docteur Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF. Emmanuel Macron a réagi pour la première fois depuis le résultat des élections législatives. Le camp présidentiel a obtenu seulement une majorité relative et non absolue. Aucune force politique ne peut faire les lois seule, a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron a reconnu les fractures apparues lors de ces élections et il a appelé la classe politique à légiférer différemment et à des compromis. Vous êtes bien sûr Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, en France, peut-on gouverner le pays sans majorité à l'Assemblée nationale? Alexis Bachelet reçoit Didier Mauss, constitutionnaliste, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. L'invité de rencontre à 21h est l'avocate Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP, à l'occasion du 50e anniversaire de la loi de 1972 contre le racisme, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.